Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition, retour au calme, c'est mercredi à Bukama dans le Olomami. L'accalmie intervient au lendemain d'une tension créée par l'incursion des combattants Maïmaï au chef-lieu de ces territoires. La présence des FRDC rassura les uns et les autres. Pendant que la maladie à virus Ebola continue de menacer des vies à Ituri, l'accès à l'eau potable et des mers est un grand problème dans certains villages. Cela risque même de porter préjudice aux efforts de riposte. Notre invité de ce journal de midi est exceptionnel. Il s'agit de Wivin Mutaka, résident à Goma, qui s'investit dans la fabrication des prothèses pour permettre aux personnes amputées de retrouver la marche. Elle partagera avec nous son parcours marqué par sa condition des personnes en situation de handicap. Comme annoncé au sommaire, une accalmie règne ce mercredi au chef-lieu du territoire de Bukama dans la province du Olomami. Elle intervient après une journée des mardis agitée, marquée par une incursion d'hommes armés dans la zone. Ce mercredi matin, la présence militaire de FRDC renforce la confiance des habitants. Nombreux ont été contraints mardi de fermer leurs activités à la suite des échanges de tirs entre les assaillants et les forces de l'ordre. L'hôte civil de Bukama fait état d'un bilan professionnel provisoire de deux personnes tuées et d'une autre grièvement blessée. Jusqu'à présent, les autorités compétentes ne se sont pas encore exprimées sur cet incident. Retour sur les événements de mardi avec Augustin Monga, président de la cité civile de Bukama, joint par Jean Gandou.
Hier, à 8h50, que nous avions commencé à entendre des coups de balle, nous, nous étions au marché en train de faire des achats. Au même moment, la population a commencé à courir, à chacun sa direction. Les coups de balle ont continué jusqu'à 15h. De bouche des gens circulaient de l'intuition de Maïmaï. Arrivé à la cabine, nous avons trouvé une personne tuée à coups de balle, son argent emporté. Et un autre, toujours dans ce même cabinet, qui a réussi un coup de balle au niveau de la jambe. Blessé, il est transféré à l'hôpital. On remontait vers le camp, juste à la prison, et il y a encore un monsieur tué, habillé à la manière de Maïmaï. On se pose des questions, comment n'avons-nous pas maîtrisé même deux, même trois Maïmaï? Nous, population, nous avons besoin de la paix que nous prenons chaque jour. Alors que le gouvernement fasse un effort avec le concours de nos populations, au cas où on remarquait ces gens-là, et on pourra les dénicher. Vous savez, lorsque deux éléphants se battent, qui en pâtissent souvent? C'est nos populations, c'est pourquoi nous crions, en tout cas nous voulons qu'il y ait la paix.
Honneur qui vous, c'est une autre panique qui a régné mardi à Nyabiondo, dans les territoires des Massissi. Elle est consécutive à une forte explosion survenue dans une position tenue par les rebelles des Life-Saint-Am-23, indique plusieurs sources locales. Certaines d'entre elles évoquent une frappe aérienne menée par un drone militaire contre cette position rebelle. Des détails avec vous, Kaki Akewa.
Ce mercredi, le calme est revenu dans l'agglomération de Nyabiondo après la paralysie des activités socio-économiques provoquées par cette forte détonation survenue mardi au milieu de la journée, selon plusieurs sources locales. Des notabilités de la région attribuent l'incident à une frappe des drones militaires. Elles indiquent qu'un appareil sans pilote a survolé la cité vers 9h locale avant que deux bombes ne frappent successivement une position occupée par les rebelles de l'AFC M23 près de l'église catholique de Nyabiondo. Selon nos sources, aucune cible civile n'a été touchée. La frappe a toutefois provoqué un mouvement de panique parmi les populations riveraines, dont plusieurs habitants ont quitté leur domicile avant d'y retourner dans la soirée. Aucun bilan n'a pu être établi jusque-là, la zone restant inaccessible aux civils. Cette frappe intervient alors que les opérations militaires se poursuivent dans plusieurs localités du secteur Osobianyungu et des entités voisines du territoire des Massissi. Des violents affrontements opposent toujours les Wazalendo alliés au FRDC aux rebelles de l'AFC M23 dans un contexte marqué par l'insécurité et la crise humanitaire.
Nous allons laisser les frappes des drones, mais nous restons toujours au Nord Kivu, où la société civile Force Vive dénonce l'utilisation de son identité dans les zones contrôlées par l'AFC. Dans une déclaration publiée ce mercredi à Beni, chef-lieu provisoire de la province, elle refute catégoriquement avoir lancé un quelconque appel à une marche à Goma aux côtés d'une plateforme se présentant comme Société Civile Plurielle et Force Vive du Nord Kivu. Elle rassure par ailleurs aucun de ses représentants ne peut exercer librement dans les territoires sous occupation. On écoute Fiston Missona, le rapporteur général de la coordination provinciale.
Nous rappelons le fait. Lors de la prise de Goma et Bukavu, les acteurs de la société civile Force Vive et le militant des mouvements citoyens ont été spécifiquement pris pour cible. Plusieurs ont été tués, arrêtés, menacés ou forcés en exil. À ce jour, aucun acteur légitime de la société civile Force Vive de la RDC n'exerce librement sur les sols occupé par la rébellion de l'AFC 123-RDF. Toute activité se réclamant de la société civile dans ces zones se fait sous contrainte et ne reflète en rien la position des forces vives. Par conséquent, nous désavouons totalement toutes lettres, tout communiqué, toutes déclaration signée par une prétendue société civile émanant des zones sous occupation.
Parlons à présent de cette pénurie d'eau potable qui touche plusieurs localités du territoire de Mambasa en Ituri et qui risque de compromettre les efforts de lutte contre la 17e épidémie d'Ebola. L'alerte est d'ailleurs lancée par les acteurs de la société civile sur place qui s'inquiètent du manque des dispositifs de lavage des mains, pourtant essentiels pour prévenir la propagation de cette maladie. Le point avec Isabia Mungu.
Dans plusieurs villages de Mambasa, l'accès à l'eau devient de plus en plus difficile. Certains habitants passent des longues heures au puits tandis que d'autres parcourent plusieurs kilomètres pour s'approvisionner dans des ruisseaux. Une situation qui complique davantage le respect des mesures d'hygiène recommandées à cette période de crise sanitaire. Selon des leaders communautaires, les dispositifs de lavage de mains sont quasi inexistants dans plusieurs entités, notamment à Biakato, Ndouye, Mandima et Loloa. Ils craignent que cette insuffisance favorise la propagation de la maladie à virus Ebola au sein des communautés. Ces acteurs appellent les équipes de riposte à installer davantage des points publics de lavage de mains afin de renforcer la prévention. Ils plaident également pour la réhabilitation des sources d'eau existantes qui ne sont plus fonctionnelles. D'après les rapports du Centre des opérations d'urgence de santé publique publié le 26 juillet dernier, 120 cas confirmés d'Ebola sont déjà enregistrés dans le territoire des Mambasa, dont environ 61 décès. Bunia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
La Cour constitutionnelle a déclaré recevable et conforme à la Constitution la requête, le remise par le président de la République sur le référendum. Cet arrêt a été rendu public. Nous sommes mardi par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. D'amples détails avec les présidents de cette Cour, Dieudonné Kamuleta, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable, dit conforme à la Constitution. La loi lui soumise, fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo soumises à son contrôle sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Dit qu'elle doit être publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que pour son application soit tenu compte des réserves formulées. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Nous allons partir en Mbuji-Mayi. La synergie des femmes leaders du Sankuru dénonce l'absence totale des femmes dans le nouveau gouvernement provincial, publié lundi par le gouverneur Jules Lodi. Sur les 10 ministres nommés, aucune femme n'a été retenue. Dans un communiqué, la plateforme appelle le gouverneur à revoir son arrêté afin de garantir une meilleure représentation des femmes conformément aux principes de parité et d'inclusion. Écoutons Emma Elongo Djamba, coordinatrice provinciale de la synergie des femmes leaders du Sankuru. Elle répond aux questions d'Esther Dalafina.
Nous, femmes du Sankuru, exprimons notre profonde indignation, déception et désapprobation à la suite de la publication du gouvernement provincial qui ne compte malheureusement aucune femme. Cette exclusion totale des femmes est inacceptable dans un état de droit qui a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes avant la publication de cette équipe gouvernementale. Un plaidoyer avait été officiellement transmis au gouverneur, l'invitant à assurer une représentation effective de femmes au sein de son gouvernement. Cet appel formulé dans un esprit républicain constructif est manifestement resté sans suite. En choisissant de former un gouvernement exclusivement masculin, l'autorité provinciale a ignoré les aspirations légitimes des femmes du Sankuru et les engagements de la RDC en faveur de la promotion de la femme dans les instances de prise de décision. Nous appelons, monsieur le gouverneur, à corriger cette situation pour rétablir une gouvernance conforme aux principes d'égalité, d'équité, d'inclusion et de justice.
C'était Elongo Djamba au micro de Esther Ndalafina. Nous allons partir vers Kasaï occidental. La colère grogne parmi les enseignants du Kasaï transférés de la banque Finca à Advance Bank. Ils dénoncent des retards persistants dans les paiements de leurs salaires. Dans une déclaration publiée mardi, ils affirment que depuis leur transfert intervenu au mois de juin, leur identification auprès de la nouvelle banque n'est toujours pas finalisée. Conséquence, ils n'ont pas encore perçu leur prime de juin, une situation particulièrement difficile pour les enseignants venus des territoires qui doivent assumer eux-mêmes leurs frais de séjour dans cette entité. Ils menacent de boycotter la rentrée scolaire si aucune solution n'est trouvée rapidement et sollicitent l'intervention du gouvernement provincial face à cette situation. Écoutons Richard Mwanza au micro d'André Katendengalamouloumé.
On nous a délogé des Finca pour l'Advance Bank. Pour être identifié chez l'Advance Bank, ça doit prendre peut-être quelque chose de 3 ou 4 semaines. Nous allons maintenant pour trouver les numéros des comptes. Ça prend 2 semaines. En plus de cela, quand nous allons pour toucher l'argent, on doit appeler d'abord Kinshasa pour que Kinshasa puisse mettre quelque chose puisque dans le compte c'est vide. On a commencé à nous identifier depuis le 15 juin. Nous nous posons des questions. Nos collègues qui sont à Finca, le même jour qu'ils sont fait identifier, c'est le même jour qu'ils reçoivent leur argent de pays. C'est l'advance, ce n'est pas le cas. Nous nous sommes dit non, trop c'est trop. Nous avons vu les autorités. Mais il n'y a plus de réaction. C'est pourquoi nous demandons son excellence, monsieur le gouverneur de province, de pouvoir nous faire retourner à Finca. Que son excellence puisse vraiment avoir les soucis des enseignants. Puisque d'ici le premier, c'est la rentrée. Sinon, ça sera bon.
Bouleverser.
Et puis, au niveau des Matadi, les véhicules épaves abandonnés sur la voie publique sont désormais ciblés par la mairie. Depuis lundi, une opération de dégagement des chaussées est menée à travers la ville afin de libérer l'espace public, fluidifier la circulation et améliorer les cadres de vie. Les propriétaires concernés sont invités à récupérer leurs engins avant leur transfert à la fourrière. Élise Kavira.
Le lancement de cette opération d'évacuation des épaves et véhicules abandonnés est salué par de nombreux habitants de Matadi. Pour Bibi Chianfou, ces carcasses encombrent les avenues, entravent la circulation et contribuent à l'insalubrité dans la ville.
J'ai toujours dit qu'une ville ne peut pas ressembler à un garage de véhicules à panne. Nos avenues sont devenues étroites et sales. Il y a des véhicules qui sont ici depuis plusieurs mois.
Au-delà de ces désagréments, la question de la sécurité préoccupe également les habitants. C'est le cas de ces jeunes matadiens rencontrés sur les lieux lors du démarrage de l'opération.
C'est une belle initiative. Ces carcasses servaient de cachette aux criminels la nuit. C'est bien que les avenues soient dégagées à présent.
Selon les autorités municipales, plusieurs communiqués ont été publiés au cours des 6 derniers mois, invitant les propriétaires des véhicules et carcasses abandonnées sur la voie publique à les évacuer. Jires Bandila, chef du bureau des transports urbains, en donne des explications.
Cette opération qui a commencé est pour une durée indéterminée, que ce soit des épaves, des remorques ou de petits véhicules. Rien ne sera épargné. Je lance encore un message aux propriétaires. C'est le moment de récupérer vos véhicules abandonnés.
La population de Matadi salue cette initiative et souhaite que cette opération soit menée avec rigueur afin d'améliorer le cadre de vie de tous. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le service fédéral de sécurité russe, FSB, a déclaré ce mercredi avoir inculpé le fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour avoir facilité les activités terroristes, précisant avoir émis un mandat d'arrêt international à son encontre, rapporte l'agence Interfax.
L'invité.
Comme annoncé, mesdames, et mesdemoiselles et messieurs, notre invitée est Wivine Mutaka, technicienne orthoprothésiste au Centre pour handicapés physiques Chérie Kala Umoja de Goma. Victime de guerre, elle a perdu sa jambe en 2014 avant d'obtenir une bourse du CICR pour étudier 3 ans au Togo, où elle a appris à fabriquer des appareils qui permettent à d'autres personnes amputées de marcher et de reprendre leur vie. Dans cet entretien avec Rosalie Zawadi, elle raconte son histoire et demande le retour de la paix dans l'est du pays afin que personne d'autre n'ait à subir ce qu'elle a vécu. On l'écoute.
Wivine Mukata, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes orthoprothésiste ici au Centre pour handicapés Chérie Kala Umoja à Goma. Dites-nous comment a commencé ce parcours.
C'était même pas dans mes pensées d'être orthoprothésiste avant mon accident. Avant, je voulais être informaticienne. Mais malheureusement, c'était en 2014, il y avait une bombe qu'on avait larguée sur notre maison à Beni. J'avais perdu ma jambe. Nous étions blessés au nombre de 3, moi, papa et maman. Et j'étais la seule à perdre un membre de mon corps, une partie de mon corps, je veux dire ma jambe là. C'est pourquoi j'ai même mis une prothèse sur moi. Et nous étions pris en charge par les CICR à Sebekandocho. Et la jambe était déjà gâtée, je veux dire gangrénée. Et on avait jugé bien d'amputer la jambe à question. Aujourd'hui, je suis technicienne orthoprothésiste parce que lorsque j'avais bénéficié de ma première prothèse, c'était à Bukavu, où j'avais vu un papa double amputé. Bon, il était tout le temps triste avant sa prothétisation. Je le voyais, bien que moi-même, je n'avais pas mes deux jambes. Mais pour lui, je voyais visiblement qu'il était traumatisé, bien sûr, comme moi, parce que l'acceptation n'est pas facile. Mais quand il avait essayé ses deux prothèses, quand il était debout, il était content. Bon, en fait, moi-même, j'étais contente pour lui. Et je m'étais dit au fond de moi que c'était la chose que je devrais faire pour les autres personnes en situation d'handicap, surtout les amputés, parce que l'acceptation n'est pas facile. Alors je me disais, je serais la mieux placée pour motiver les autres, leur dire que, bon, après l'amputation, il y a la vie qui continue.
Lorsque vous avez fabriqué la première prothèse pour une victime et vous l'avez vue la porter, qu'est-ce que ça vous a fait?
Non, j'étais hyper contente, en même temps triste. Pourquoi triste? Parce que j'étais arrivée alors qu'il y avait l'influx de patients, victimes. Oh, j'étais blessée par bombe. Oh, balle. Je me disais, mais finalement, c'est quoi le problème? Moi, je me disais, bon, ok, si on bombarde, ma jambe est partie. Et si ça s'arrêtait sur moi et qu'il n'y aurait pas d'autres victimes, pourquoi ça continue? À l'école, on avait des patients, oui, mais pas des patients victimes des conflits armés. C'était des patients, soit poliomyélite, accident de circulation et tout. Maintenant, ici, là, c'est... Voilà, ils ont des plaies, ils sont tristes. C'était mélangé. Pour moi, j'étais vraiment triste et en même temps contente parce que j'étais déjà en RDC et que je prenais soin des autres. Et j'ai motivé certaines personnes, surtout les femmes. Ah oui, ça nous fait mal.
Et vous avez subi les conséquences de la guerre. Et aujourd'hui, la guerre continue. 12 ans depuis que votre maison a été bombardée. Quel message avez-vous à envoyer à ceux qui font la guerre?
Nous, population, nous avons juste besoin de la paix. Ils peuvent s'étirailler entre eux là-bas et laisser la population tranquille. Parce que nous sommes vraiment victimes. Si ils sont en guerre parce qu'il y a la richesse en RDC, bien, nous, on se cherche. Il y a certaines personnes qui vont à la forêt. Et là, ils peuvent marcher sur une bombe parce qu'il y avait une guerre et puis on avait oublié la bombe peut-être là-bas. Pourquoi ? On a amputé la personne là. Ou bien pourquoi la personne là est morte? Juste parce qu'il y a des tiraillements entre tel état ou bien... Vraiment, nous avons juste besoin de la paix en RDC. C'est ce que nous demandons. Juste ça. Hein. On n'a pas besoin de leur argent. On n'a pas besoin d'éducation gratuite. Hein. Pas besoin de ça. Tout ce qui est gratuit là, on ne veut pas. nous vaut la peine. On va aller au champ, on va cultiver, on aura nos choses à nous. Parce que quand il y a la paix, les enfants peuvent aller à l'école. Mais avec gratuité, il y a guerre. Comment les enfants peuvent aller, je veux dire, étudier alors qu'il y a un, ça ne va pas? J'espère à la paix. C'est pourquoi je suis à Goma. Parce que je sais qu'un jour, on aura la paix. Ça sera une joie pour nous tous. Les gens qui seront encore valides et nous, les victimes, on sera dans la joie de savoir que la paix est revenue en RDC.
Beaucoup de courage.
Merci vraiment.
Beaucoup de courage à tous les habitants qui nous écoutent à Goma et à Bukavu et d'autres entités dans l'est du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci à Élisée Chikota pour la coordination, Jean Gandou pour la supervision, Justin Siala à la partie technique, Ronéline Thibonera et Diamine à la présentation.